Bonjour à tous.
Bonjour.
C'est un privilège de partager la parole de Dieu pour la première fois avec Flora. Comme dit Élie, c'est ma première. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Quand Marc m'a demandé de prêcher, il n'y a pas si longtemps que ça, il m'a demandé à la dernière minute, j'étais en discussion avec Vincent. Il va là qui ? Non. Et on discutait de la prédication de la semaine dernière, on semble que vous vous en souvenez. Le temps.
Oui.
Et c'est un sujet qui me tient à cœur, à moi et à mon épouse, la gestion de votre temps. Et on avait commencé à partager sur nos approches du temps, et Marc me demande de prêcher. Et donc, du coup, je vais en profiter. Je ne vais pas vous parler de la Pentecôte aujourd'hui. Désolé pour ceux qui s'y attendaient. Je vais vous parler du temps, le temps de Dieu. Et on va commencer par un petit retour en arrière, un petit rappel sur la prédication de Guy. Je suis vraiment désolé qu'il soit pas là, parce que je vois bien aimé qui me contrôle. Vous savez, Paul écrivait aux Philippiens « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Il faut répéter les choses. Donc si vous me le permettez, je vais juste faire un petit résumé de la prédication de dimanche dernier, ce qui nous mettra dans le contexte, et ensuite on va aborder le sujet que je voulais partager avec vous. Alors Guy nous a mis en garde sur plusieurs choses. D'abord, que notre temps est précieux, vous en souvenez, qu'il passe très vite et qu'il nous faut le gérer au mieux. On a étudié le psaume 90, combien l'ont relu dans la semaine? Je ne l'ai pas fait. Ah, très bien. Et donc, dans ce psaume, nous avons une mise en garde contre le temps perdu et un appel à faire preuve de sagesse. Au verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Vous vous en souvenez ? Guy, ensuite, a déroulé le psaume, et on va aborder plusieurs points. Je voulais juste vous rappeler, ça vous mettra dans le contexte, et ensuite on pourra avancer plus loin. Il y a quelque chose d'intéressant que Guy avait précisé, c'est que Dieu est hors du temps. Dieu se trouve toujours dans le présent. Il n'a ni commencement, ni fin, ni passé, ni futur. Il est le Dieu « Je suis ». Comme ça qu'il se présente à Moïse. « Je suis ». Dieu est l'éternel présent. Guy nous a ensuite rappelé que le temps court et qu'il est court. Vous vous souvenez de ce jeu de mots ? Le temps court et il est court. Et donc, il nous a rappelé qu'il y avait un temps relatif et un temps subjectif. Ça vous rappelle quelque chose ?
Oui.
Ah bon, très bien. Bon. Et que notre défi à chacun d'entre nous, les chrétiens, c'était de racheter le temps. Alors, que signifie racheter le temps ? La définition que vous avez donnée, c'est racheter le temps, c'est profiter de toutes les occasions favorables que Dieu nous donne pour lui être fidèle et pour accomplir sa volonté. Racheter le temps, c'est aussi mettre notre temps à la disposition de Dieu. Alors bien sûr, il y a plusieurs temps. Quel temps pouvons-nous donner à Dieu ? Le temps passé, il nous a rappelé, ça ne nous a pas tous fait plaisir, on ne peut pas le revivre, hein, ce qui est passé est passé. L'avenir est à venir, qui ne nous appartient pas. Et il nous est en plus à cause du temps, on ne peut pas le donner à Dieu. Par contre, le temps présent est à vivre pleinement, et c'est ce présent que nous devons vivre comme un cadeau de Dieu. Comme un cadeau que Dieu nous fait. Et donc, un présent, ce présent, nous devons bien nous en servir. Alors, comment faire concrètement ? Guy a été assez pragmatique et assez concret. Comment faire concrètement pour racheter le temps ? Alors, vous nous avez d'abord emmené sur le terrain du temps favorable pour témoigner. Vous vous souvenez de toutes ces petites anecdotes qu'il nous avait données. Donc, le temps favorable pour témoigner, pour lui, c'est une manière de racheter le temps. Et nous allons ensuite ainsi inviter à faire preuve de sagesse. Que cette sagesse implique donc la gestion de notre temps, organisation, planification, discipline. Moi, je passe trop de temps dans la télé. Je suppose que je ne suis pas que ce, c'est ça. Et cette sagesse, elle doit aussi nous servir à veiller à la qualité de notre relation avec Dieu, à notre sensibilité au Saint-Esprit. Ensuite, racheter le temps, c'est aussi discerner le plan de Dieu et son projet dans nos vies. Verset 17 du psaume 90, il est écrit « Comprenez quelle est la volonté du Seigneur ». Et c'est ce point-là que je voulais aborder avec vous tout à l'heure. Et le dernier point, pour racheter le temps, point essentiel, c'est que tout doit concourir à la gloire de Dieu. Toujours, nous devons toujours nous assurer que nous sommes en train de glorifier Dieu dans la façon dont nous utilisons ce temps que Dieu nous donne. Et Guy a conclu en nous disant que nous pouvons et nous devons racheter le temps. Ça va ? Vous en souvenez ? C'est bon ? Très bien. Alors ça, c'était pour le quotidien. C'était pour la vie de tous les jours. Et Élie serait là, il aurait traité de percher. Parce que là, on va aborder un aspect un peu plus high level du temps. Et surtout un aspect un peu plus spirituel dans notre relation au temps. Et donc c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Vous savez tous que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de sagesse. D'accord ? Nous sommes dans un royaume, nous ne sommes pas dans une république. Qui dit royaume, dit roi, dit sujet, dit autorité, dit obéissance. Donc nous sommes dans un royaume d'ordre et de sagesse. Dans son alliance, Dieu a promis à Abraham une terre, des enfants et une postérité. C'est tout. Vous en êtes convaincus ? Il fixa les frontières de cette terre qu'il avait promis à Abraham et il changea même le nom du petit-fils d'Abraham, Jacob, en Israël. Donc le nom de ce pays, la terre d'Israël. Jacob, lui, eut des fils qui devinrent les 12 tribus d'Israël. Ça vous parle ? Les 12 tribus d'Israël. Et ces 12 tribus furent chacune d'entre elles une partie de toute la terre d'Israël. Alors, on va faire un grand bond dans le temps. Sous le règne de David, les descendants d'une tribu particulière, la tribu d'Issacar, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette tribu ? La tribu d'Issacar était réputée pour leur capacité à discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'était le don de cette tribu. Ils savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et ça, on peut le lire dans 1 Chronique 12, verset 32, des fils d'Issacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. En raison de leur aptitude à observer et à interpréter les événements, leur avis était suivi systématiquement. Cette faculté de discernement a certainement été un grand secours pour le peuple d'Israël et particulièrement pour le roi David. Alors, discerner le temps. Discerner les temps. Alors, on va être clair, discerner les temps, ce n'est pas chercher à connaître la date de retour du Seigneur. Ça, mais enlevez-vous ça de la tête. Seul Dieu le Père le sait. C'est écrit dans Matthieu 24. Donc, n'essayez pas, en scrutant BFM TV ou en lisant je ne sais pas quoi, de dire oui, Jésus revient à telle date. Non, seul Dieu le Père le sait. Discerner les temps, c'est comprendre les caractéristiques de notre époque pour nous révéler et accomplir les services que le Seigneur nous confie. Est-ce que vous comprenez ? On va discerner et on agit. L'éloge des fils d'Issacar ne se rapporte pas à des connaissances astronomiques, météorologiques, scientifiques, ni à la science des saisons par rapport à l'agriculture, mais bien à une habileté pratique et politique. Il conseillait Israël, conseillait le pays d'Israël sur ce que le pays devait faire. Donc c'est une habileté pratique et politique provenant d'une intelligence spirituelle. Ça va? Je vous ai toujours? Ils avaient l'intelligence des temps, c'est-à-dire qu'ils avaient une compréhension révélatoire qui leur permettait de discerner les bonnes actions au bon moment. Ils savaient prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça, dans les affaires politiques et économiques de l'époque, ils étaient sensibles aux devoirs et aux intérêts de leur nation, c'est-à-dire Israël. Paul, dans Éphésiens chapitre 5, nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Le but, c'est d'essayer de comprendre la volonté, la vision du Seigneur. Et c'est ça, racheter le temps. Le temps, qu'est-ce que c'est? Le temps, c'est un capital que nous devons apprendre à gérer, à manager sagement et intelligemment. On l'a vu avec le petit Germain. Le temps mis à profit ainsi nous permet d'investir dans le royaume de Dieu. Pourtant, étonnamment, la plupart d'entre nous, moi le premier, quand on se lève le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire pour le royaume de Dieu. On n'a aucune idée, on se lève, on vit, on est dans une routine RER, dodo, boulot pour moi, parce que je prends plus le RER que le métro. Et à la fin de la journée, donc le soir arrive et nous ne pouvons pas revenir dessus. C'est dommage. Moi, personnellement, très souvent le matin, je me réveille, bon, je ne sais pas ce que je fais, je vis, et après, je me pose la question le soir, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai lu ? Pas grand-chose. C'est à nous de mettre cette journée à profit au maximum pour glorifier le Seigneur avec le capital temps que nous possédons. Dieu nous appelle à apporter du fruit pour sa gloire, et ce que nous faisons de nos journées, comment nous les gérons, c'est de notre entière responsabilité. Guy nous l'a rappelé aussi dimanche dernier. Et j'ai trouvé un verset qui est assez intéressant, qui fait un petit peu froid dans le dos, c'est dans Ecclésiaste au chapitre 9. Il est écrit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux valeurs, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Ça fait réfléchir. Alors, revenons au temps. Le temps est le cadre de la création du monde matériel. Tout est formé dans le temps et tout est dirigé par le temps. Quand on lit Genèse, il y a toujours des échéances, il y a toujours une notion de temps. Genèse chapitre 1. Si nous connaissons le bon temps, nous pourrons, comme les fils d'Issacar, faire la différence dans notre sphère d'influence, quelle qu'elle soit. Qu'on soit militaire, qu'on soit cadre, qu'on soit agent de sécurité, qu'on soit pasteur, qu'on soit étudiant. Nous devons connaître le bon temps. Parce que Dieu veut que nous comprenions et que nous interprétions les temps dans lesquels nous nous trouvons afin que nous ayons la sagesse pour savoir comment avancer. En gros, il nous équipe en oiseaux et ouvriers. C'est à nous de comprendre. Marcher avec Dieu implique de voir le temps comme Dieu le voit. Et comprendre comment ces cycles se produisent. Si vous réalisez un peu, si vous vous posez la question sur votre vie, vous pouvez déterminer des cycles, vous pouvez voir qu'il y a des cycles il y a ce qu'on appelle des saisons. Et vous pouvez vous dire rétrospectivement, ah oui, là, c'était telle saison, là, j'ai vécu telle chose, et finalement, ça m'a préparé à telle chose, j'ai pris des décisions à tel moment, qui ont amené à me conduire dans d'autres cycles. Parce que Dieu fait avancer l'histoire avec un grand H, avec une destination bien précise, et il utilise des cycles, des saisons, pour nous faire progresser et nous attirer toujours plus à lui. Alors là, on va entrer dans du réel et du perché. Quand la puissance de la grâce pénètre dans le temps, de nombreuses situations sont changées. Ça vous parle ? Quand Dieu achève une saison pour en commencer une autre, ou nous fait passer par une transition, il met un terme à certaines situations. Et c'était ça le secret de la tribu d'Issacar, c'est qu'ils avaient, ils pouvaient comprendre les temps, elles savaient comment et pourquoi les structures devaient disparaître pour qu'une nouvelle saison commence. Et ça, dans Ecclésiaste, je vous rappelle, c'est un des versets préférés de ma tendre épouse, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Alors, la Bible représente le temps comme une révélation, car c'est Dieu qui l'a créé et qui nous en offre l'usage. Dieu qui est au-delà du temps intervient dans les temps, de nos temps, il intervient dans nos vies. Et a priori, le temps semble borné par la création et l'Apocalypse. Mais du point de vue chrétien, le temps est un temps d'espérance. Nous sommes dans l'espérance. Le temps est un temps de promesses, nous vivons les promesses. Le temps est un temps de délivrance attendue. Et la fin des temps elle-même est un retour du divin, de l'éternité. Pourquoi je dis ça? Si vous lisez Isaïe 9.5, on va peut-être le lire. Qui a pris Isaïe dans la Bible? Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Là, parle bien de Jésus. Et dans le texte hébreu, le Père éternel, en hébreu, est traduit par chef de tous les temps. C'est intéressant. Chef de tous les temps. Donc le retour de Jésus, le retour du chef de tous les temps, c'est-à-dire l'éternité, est un temps éternel. Revenons un peu à notre quotidien. On va redescendre un peu, on est un peu trop haut là. La densité d'une journée n'est pas quantifiée par le nombre d'actions effectuées, mais par la pertinence de nos initiatives. En gros, c'est pas plus je fais, mieux c'est. Mais est-ce que je fais à propos? Est-ce que je fais ce que je dois faire? Est-ce que je suis vraiment dans le pertinent plutôt que dans la suractivité? Ce sont souvent des débats houleux que nous avons à la maison. Vous devez vous douter avec qui? Pardon?
Avec
le papa. Oui, bien sûr. Oui, effectivement. On a tendance à tomber dans la suractivité, on a tendance à se cacher dans la débauche d'activité, de choses à faire, qu'on veut faire, et on est malheureusement programmé par des projections de temps bien différentes. On est programmé par Déjà la perspective de nos parents. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. On a tous des projets pour nos enfants. On est programmé par la perspective de notre couple. Quand je dis couple, c'est compris. On est programmé par la perspective de la société qui nous entoure. On a des repères qu'on doit des jalons qu'on doit atteindre régulièrement, sinon on est pas en bas. On est programmé par nos perspectives personnelles, par toutes les échéances que nous nous fixons, bonnes ou mauvaises. On peut même être programmé par la perspective de notre pasteur. Il y a aussi le temps du diable qui a des projets sur nous. Ça, on l'oublie trop souvent et qui attend son heure. Mais ce qui est important, c'est le temps de Dieu, sa perspective et son calendrier. Et une fois qu'on a appréhendé le temps de Dieu, la perspective de Dieu et le calendrier de Dieu, on a atteint ce niveau de sagesse et de compréhension et de discernement des temps. Alors là, je vais vous présenter, je vais entrer dans deux notions intéressantes. Ça va être un peu plus parlant. Nous, enfants de Dieu, on ne reconnaît pas toujours l'opportunité que Dieu, quand Dieu nous envoie, que Dieu nous envoie pour nous affranchir du temps naturel, pour nous affranchir de ce qu'on appelle le chronos. Vous savez ce que c'est le chronos? Vous avez déjà entendu parler du chronos? Le chronos, c'est le temps, c'est la date, c'est l'instant, ce sont les ans, ce sont les siècles. C'est un temps naturel. Dans la mythologie grecque, un petit peu de culture générale, la mythologie grecque, Chronos, c'était un titan. C'était un dieu primordial, un dieu principal, et qui personnifiait le temps. C'était pas un dieu très sympathique. C'est une entité spirituelle, selon la mythologie grecque, bien sûr, qui est apparue à la création du monde. Il était représenté sous les traits d'un serpent à trois têtes. Serpent à trois têtes, une tête d'homme, une tête de lion et une tête de taureau. C'est un dieu qui mangea ses enfants. Chronos a dévoré ses enfants. Et son passe-temps préféré aussi, c'était de dévorer les hommes. Chronos, le dieu temps, son passe-temps, c'était de dévorer les hommes. Il est ce temps qui marque. Il est ce temps qui marque le début et la fin de toute chose. Il est ce temps qui nous amène à la vieillesse et à la mort. Et pour l'anecdote, son épouse, Ananké, était la déesse de la fatalité. Le temps et la fatalité faisaient un couple. Dans la culture contemporaine, Chronos est représenté sous les traits d'un vieillard à longue barbe, vêtu d'une toge et tenant une faux, et parfois aussi un sablier. Donc voilà, ça c'est le chronos que nous vivons jour après jour au quotidien. Cette notion, pas ce Dieu, attention, je vous ai juste fait une petite parenthèse mythologique. Mais Dieu, lui, nous offre autre chose que le chronos. Dieu nous offre le kairos. Ça vous parle, le kairos? Le kairos, c'est le temps convenable. C'est la saison, c'est la circonstance, c'est le temps fixé et défini, c'est l'époque décisive et attendue. Le kairos, c'est le moment favorable et opportun. Le grec kairos a donné au latin opportunitas, opportunité, souvent traduit par occasion. Alors un exemple de kairos. Les enfants d'Israël n'ont pas reconnu le temps de leur visitation, et Jésus a pleuré pour ça. Ils n'ont pas reconnu le kairos du monde. Vous voyez à peu près ce que c'est que le kairos? La dimension que peut prendre un kairos? Le kairos, on l'a dit, c'est le temps de l'occasion opportune. le moment de grâce que Dieu donne pour agir. Moi, quand je me suis converti, vous tous, on a vécu un kairos et on a pris une décision à un moment. Il y avait un temps, il y avait une décision, une action à prendre et on l'a fait. Et c'est ça le kairos, entre autres. Il y a plusieurs kairos. Le kairos qualifie un moment, maintenant est le bon moment pour agir. Et moi, quand je me suis converti, j'ai senti que c'était le bon moment, il fallait que je réfléchisse les jeunes. Je n'avais pas d'autre choix. Pour moi, c'était une évidence. Le kairos n'a rien à voir avec la notion linéaire du chronos, le temps physique. Et il peut quasiment être considéré comme une autre dimension du temps, attention, créant de la profondeur dans l'instant. Ça vous parle ? Dans l'instant, le kairos, il y a une profondeur. Il y a un instant, mais il y a autre chose que ce qu'on voit. Il y a une profondeur, il y a quelque chose, c'est spirituel, dans le kairos, qui est sur le moment présent, il y a une profondeur autre que simple rendez-vous à 18h30. Vous comprenez ? Le kairos est une porte sur une autre perception de l'univers, une autre perception de l'événement, et une autre perception de soi-même. C'est une notion immatérielle du temps mesuré, non pas par la montre, mais par le ressenti. On mesure le temps par son ressenti, par nos tripes. Il y a quelque chose de viscéral dans le kairos. C'est une autre approche du temps. Et c'est souvent le moment qui advient, le moment que l'on attend depuis longtemps. Et dans la Bible, c'est le temps de Dieu par excellence. Le temps nouveau, la nouvelle saison que Dieu fait pour chacun d'entre nous dans nos vies. Il y a une notion aussi, alors c'est important, je vais essayer de vous partager ça. J'ai du mal, hein, je cache pas. Le kairos, c'est une porte du temps, un accès à notre destinée. Dans la Bible, les portes sont des passages, des accès, des lieux où sont rendues la justice, où sont prises les décisions. Souvenez-vous de Lot, qui était à la porte de Sodome, quand les anges sont arrivés, qui faisait du business en fait. Souvenons-nous de Boaz, qui rachète Ruth où ? À la porte de la ville. La porte est un endroit où on rend justice, où on prend des décisions dans l'Ancien Testament. Et moi, je donne au verset 7 du psaume 24, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Pour moi, c'est pas simplement une porte physique. Quand j'ai travaillé sur ce message, vraiment, j'ai vu le kairos, la porte du temps, qui s'élève pour laisser passer le roi de gloire. C'est pas simplement une porte physique qui doit. Il y a une notion vraiment de porte du temps qui nous donne accès à notre destinée. Alors, les kairos sont souvent aussi, et là, à faire plaisir à ceux qui attendaient un peu sur la Pentecôte. Les kairos sont souvent aussi des moments d'explosion et de plénitude spirituelle. Pendant ces saisons kairos, l'Esprit de Dieu élève son niveau d'activité et peut envahir toutes les sphères de notre vie. Et là, acte 2, verset 1 à 4, l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, c'est clairement un moment kairos. Parce qu'ils étaient attendus, ils étaient là, ils étaient 120 à l'étage d'une maison. Donc ils étaient un peu entassés à mon avis et ils attendaient depuis un moment. Ils attendaient ce moment kairos et ils savaient qu'il allait arriver. Ils ne savaient pas quoi, mais ils savaient qu'il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il reste là. Et c'est purement l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et purement un moment kairos. Vous imaginez tous les kairos qu'on a ratés ? tout change et la réalité des choses prend une autre direction selon la volonté de Dieu. La conséquence du kairos de la pentecôte, on le voit dans le verset 37 et 41, c'est que plus de 3000 personnes se sont converties. Tout change. Mais avec le kairos, tout s'accélère aussi. Nous devons nous attendre à une accélération des réalités spirituelles. Dans Isaïe 60, la parole dit « Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Je vais accélérer ça. En leur temps, en leur kairos. Et pour revenir un peu à nous, notre maturité et notre transformation sont aussi hâtées dans les jours qui viennent. Romains 9, verset 28, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement, c'est-à-dire rapidement, sur la terre ce qu'il a résolu. » Donc en gros, le kairos, il opère la rencontre entre deux problèmes, deux critères. Le premier critère, c'est celui de l'action, et le deuxième, c'est celui du temps, ou plutôt du moment de l'action. Est-ce que vous suivez? Le kairos se rattache à un certain type d'action qui doivent être accomplies à temps. Et le kairos ne tolère pas de retard ni d'hésitation. C'est la condition, le kairos, d'une action réussie, qui peut aussi nous apprendre, paradoxalement, on l'a vu, c'est très fragile, c'est très subtil, que la réussite de cette action tient à presque rien. Donc on a vu au début, discerner les temps, on a vu que c'était comprendre les caractéristiques de notre époque pour nous réveiller et accomplir les services que le Seigneur nous confie. Et là, c'est pas de moi. Si le chronos est le tic-tac, le kairos est la sonnerie de notre réveil. Ça vous parle ? Le chronos est le tic-tac régulier, le temps naturel, le temps physique. Et le kairos, ça sonne. Pas toujours, mais ça sonne. C'est à nous d'entendre la sonnerie du réveil, de ne pas mettre sur buzzer et reporter, comme moi je fais tous les matins, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Je suppose que je ne suis pas le seul. Ça va, je ne vous ai pas perdu?
Non.
Bon, ok, cool. Quand j'ai dit à ma femme, non mais c'est, la prédication est un peu bizarre. Il m'a dit, non mais les gens de cette église, ils sont très... Il n'y a pas de soucis. Elle est là. Alors, revenons à Issachar. On va conclure. On va revenir à Issachar. Quand Dieu a délivré son peuple de l'esclavage, quand il l'a fait sortir d'Égypte pour l'amener en terre promise, on l'a vu en Israël, il fit sortir le peuple par corps d'armée. Il y avait un ordre particulier. Et il y a une caractéristique intéressante, c'est que 3 des 12 tribus sortent ensemble. On peut le voir dans Nombre, au chapitre 2, et même c'est répété au chapitre 10. Ces 3 tribus sont les suivantes. 1. La tribu de Judas, c'est la tribu conquérante, qui était prophétiquement toujours destinée à aller la première au combat. Et Judas, ça veut dire quoi? Louange. Donc la louange, d'abord. Ensuite, Issachar, donc la tribu qui comprenait les kairos et pouvait interpréter la parole de Dieu dans le temps. Donc c'était le discernement, d'abord. La louange, le discernement. Et enfin, la troisième tribu, c'était la tribu de Zabulon. La tribu de la guerre, la tribu de la flotte et la tribu du commerce, qui représente souvent la prospérité. Donc on a, pour cette sortie, cette délivrance, on a la louange, le discernement et la prospérité qui sortent les premiers. Qui partent les premiers, ils sont dans l'ordre voulu par Dieu. Et nous, nous sommes quoi? Nous sommes les héritiers de la postérité d'Abraham. On l'a vu tout à l'heure. Nous devons être de vrais fils d'Issachar, Nous louons déjà notre Dieu. On l'a fait ce matin. Dieu, dans ses promesses, nous vivons des prospérités plus ou moins variables les uns par rapport aux autres. Mais Dieu est juste. Et nous devons d'avoir ce discernement et d'être les dignes héritiers de la postérité d'Abraham. Dans Romains, il est écrit, nous connaissons le temps actuel. Nous connaissons, il s'agit de nous, hein. Nous connaissons le temps actuel. C'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Pourtant, quand nous vivons des événements particuliers, notamment ce qu'on a vécu l'année dernière, on va chercher systématiquement une signification prophétique, ponctuelle. On prie dans l'urgence sur une situation ponctuelle, on réclame une parole de Dieu pour cet événement. Plutôt que d'avoir une vue d'ensemble et pouvoir s'inscrire dans la vision de Dieu, comprendre le kairos, comprendre clairement le plan général de Dieu. Savoir que pour nous, pour nos familles, pour que ce soit notre travail, que ce soit nos décisions, notre église, notre ville, voilà, il y a des choses à faire. Et je discutais hier soir avec Marc, et moi je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, comment l'église, 13 novembre, a vécu ce drame. Vous connaissez notre pasteur, il m'a fait « Ah !» L'église est sortie pendant 15 jours. Elle a été évangélisée. Ça, c'est du kairos. On ne se laisse pas abattre, vous n'êtes pas laissé abattu, vous n'êtes pas tombé dans de la mièvrerie, pof, c'est bon, on sort, on va évangéliser, il y a des gens qui ont besoin, c'est l'occasion, c'est le temps, il y a une action à prendre maintenant. Vous avez vécu un kairos. Ça vous va? Ça vous parle? Jérémie dit, même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas le droit de l'Éternel. Nous devons d'être et de faire ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu pendant 2 semaines après le 13 novembre. Voilà, il y a des choses claires, il n'y avait pas de doute. Et quand je discutais avec notre pasteur, nous on n'était pas là, mon épouse et moi, on est arrivé un mois après d'ailleurs. Voilà, pour moi c'est clair, vous avez vécu un kairos. Et donc c'est en nous, la parole dit que si nous manquons de sagesse, on n'a qu'à la demander. Et Dieu nous la donnera. Et donc, si nous voulons vraiment nous inscrire dans la compréhension du kairos, il suffit de demander à Dieu et de mettre notre esprit à la disposition de Dieu pour recevoir et accepter. Parce que parfois, le kairos ne nous convient pas. Mais accepter ce que Dieu attend de nous. Je suppose que tout le monde n'est pas sorti pendant 15 jours à évangéliser dans la rue. Mais ceux qui l'ont fait, ils étaient dans le kairos. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que tout dépend de toi, tout vient de toi, tout coule de toi, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Et vraiment, te rendons grâce, Seigneur. Pour ton amour inconditionnel, ton amour parfait pour chacun d'entre nous. Tu nous as acceptés avec nos imperfections, tu nous as attirés à toi, tu nous as réclamés, Seigneur. Et pour cela, nous te rendons vraiment grâce. Merci, Seigneur. Merci parce que nous voulons tous une portion supplémentaire de sagesse, Seigneur. Nous voulons comprendre tes temps. Nous voulons voir le temps avec tes yeux, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu développes notre acuité spirituelle afin que nous puissions être les ouvriers que tu veux que nous soyons au moment que tu as choisi et à l'endroit que tu as décidé, Seigneur. Vraiment, nous voulons être des collaborateurs zélés, Seigneur. Nous voulons vraiment participer pleinement à ton plan pour chacun d'entre nous, pour notre vie, pour notre nation, Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu opéreras dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu vas décider, tout ce que tu vas révéler, tout ce que tu vas débloquer pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous nous mettons à ton entière disposition. Merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.